Coq chante et jour paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
La production du miel est indissociable de la préservation de la biodiversité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la compagnie du miel dans la grande île de Madagascar. Pour une fois, l'Afrique a un avantage, c'est d'être encore préservée de l'industrialisation de masse. L'apiculture peut donc se développer sans les contraintes que l'on connaît dans les pays dits développés. Cela, c'est la théorie. Dans la pratique, il en va autrement. Madagascar est réputé pour la richesse de ses écosystèmes. Malheureusement, la pauvreté qui accable les populations contraint les gens à se livrer à des pratiques comme la culture sur brûlis, le déboisement et le charbonnage. Toutes ces pratiques sont nuisibles pour l'environnement. C'est dans ces conditions que quatre copains décident de lancer la compagnie du miel en 2017. C'est l'aventure que nous raconte Thibaut Lucas Delpont, un des membres fondateurs de la compagnie du miel.
La compagnie du miel, oui, c'est une entreprise qu'on a fondée il y a maintenant 4 ans avec mes associés, Gaël et Olivier, à Madagascar. Mm-hmm. On a tous habité là-bas pendant plusieurs années. Moi, j'ai habité pendant 4 ans, Gaël pendant 7 ans et Olivier pendant presque 15 ans. Et mes associés sont à Madagascar, forment les apiculteurs dans des zones reculées où il n'y a pas d'emploi et où la seule ressource disponible est la forêt. Et moi, je m'occupe de la partie plutôt vente en France.
Je vais essayer de comprendre l'idée, c'est-à-dire que avant, les gars, ils faisaient de l'apiculture artisanale, mais ils n'en tiraient pas profit. La seule alternative pour se faire de l'argent, c'est l'abattage des arbres pour faire du charbon, et ce qui cause la déforestation. Et vous, vous avez décidé de développer l'apiculture,
voilà,
pour éviter d'abattre ces arbres.
En gros, c'est ça. Notre objectif, c'est que les apiculteurs aient au moins 50 ruches. Et avec 50 ruches, ils vont pouvoir rentrer dans la classe moyenne malgache. Avec cet argent, ils vont pouvoir bien sûr envoyer leurs enfants à l'école, mais surtout, ils vont pouvoir vivre correctement. Et dans les zones reculées, où il n'y a rien en fait, où il n'y a qu'une magnifique biodiversité, mais il n'y a aucun emploi, la seule ressource disponible reste la forêt. Et malheureusement, c'est une pratique très très courante à Madagascar, notamment aussi parce qu'une grande majorité de la population se chauffe au charbon. Et nous, on essaye de créer un cercle vertueux et de faire de la forêt vraiment un allié durable, plutôt que une ressource court-termiste en fait.
Alors vous n'êtes pas apiculteur, mais vous rencontrez des apiculteurs pour leur dire comment on va faire pour utiliser cette activité-là pour lutter contre la pauvreté. Ils n'ont pas été surpris.
Alors, on a vraiment deux types d'apiculteurs. On a des apiculteurs qui étaient déjà apiculteurs à la base, notamment dans le sud-est de Madagascar, vers une région qui s'appelle, une ville qui s'appelle Manakar. Là, effectivement, ils n'ont pas été surpris et ils sont contents qu'on les aide à se professionnaliser, à pratiquer ce qu'on appelle l'apiculture moderne, donc avec des nouvelles ruches, des nouvelles techniques qu'on leur transmet. Et après, on a un autre type d'apiculture qui complètement l'inverse, je dirais, c'est vraiment on part de zéro avec des paysans, mais aussi des ONG. Donc c'est rarement directement nous avec les apiculteurs. Par exemple, on travaille dans le centre de Madagascar pour protéger une forêt qui s'appelle la forêt d'Anzouzouroubé avec l'AMIF, qui est une association française. On travaille dans le nord-ouest, vers Nosibé, vers la ville d'Ambanze, avec deux ONG qui sont Helvetas et Blue Ventures, et qui, eux, apportent un soutien financier dans le financement des ruches. Et nous, on apporte le support technique. Les apiculteurs ont jusqu'à 5 ans pour nous rembourser les ruches, parce qu'on souhaite qu'ils soient impliqués. Il ne faut surtout pas que ce soit du don. Nous, on les forme, et s'ils respectent le cahier des charges, on leur achète le miel à un prix qui est fixé à l'avance, et qui est bien évidemment supérieur à celui du marché. Et ensuite, on ramène le miel à Antananarivo, la capitale, on l'envoie en France, où il est conditionné avec un apiculteur partenaire qui est en Vendée. Et ensuite, il est distribué dans des épiceries fines.
Quand on introduit un matériel nouveau et une nouvelle façon de travailler dans un terroir, il y a d'abord une phase de sensibilisation et une phase de formation. Et là, ces différentes phases sont plus ou moins délicates et plus ou moins longues parce que le travail d'apiculteur est une activité qui requiert un certain savoir-faire. un autre problème. Cette sensibilisation et cette formation interviennent alors que le travail n'est pas encore rentable pour le paysan.
Alors on a des responsables de pôle qui sont sur le terrain. On a 3 zones de production, donc 3 responsables de pôle qui sont là en permanence et qui supervisent les apiculteurs au quotidien, qui vont les voir, qui les accompagnent. Et on a une équipe qui est basée à Antananarivo qui, au moment de l'extraction ou pour des missions ponctuelles, se déplace sur le terrain et bah, les vérifie si tout se passe bien, fait un petit audit, ramène du matériel parce qu'il faut souvent ramener du nouveau matériel. Et puis discute avec les apiculteurs, c'est important de garder cette proximité en permanence.
Moi j'ai lu qu'on peut faire 4 récoltes de miel par an, c'est pas mal du tout.
C'est ça, c'est grâce à Madagascar notamment, et grâce au climat aussi. Madagascar, on a cette chance aussi d'avoir une capacité de production qui est plus vaste.
Alors je suis apiculteur à Madagascar, j'ai bénéficié de l'accompagnement de la compagnie du miel. À partir de quel moment je peux dire que je suis autosuffisant et que je peux vivre de ce travail?
À partir d'une 50aine de ruches. Nous, on veut alors on les accompagne techniquement pour l'instant, mais on veut aussi, on est en train de mettre ça en place, leur donner vraiment des cours de gestion pour qu'ils soient capables de gérer leur ferme apicole de manière autonome, par exemple. Et ça, c'est super important pour eux, bien sûr, parce qu'ils sont plus autonomes et on veut aussi leur permettre de trouver des débouchés à terme, parce que nous, on leur apporte les débouchés. Mais qu'est-ce qui se passe si on disparaît aujourd'hui?
C'est-à-dire que, au bout du compte, l'apiculteur a du miel de qualité. Il sait qu'avec vous, il peut écouler. Mmh. Et vous lui apprenez comment gérer sa petite affaire. Lui-même peut transmettre son savoir-faire à d'autres.
Alors, en toute honnêteté, on n'est pas encore là. Hein. Ça, ce sera dans 5 ans, peut-être même 10. Mais c'est l'objectif, en tout cas. Effectivement, qu'il soit capable de transmettre. La valeur de transmission est super importante pour nous. Et c'est ça qui va permettre, encore une fois, que ce projet dure. Madagascar produisait dans les années 60-70 30 000 tonnes de miel. Là, si elle en produit 2 000 tonnes... Je suis peut-être encore optimiste. Donc, pour moi, il y a eu 2 raisons à ça. Il y a eu des problèmes de débouchés parce qu'il y a eu un embargo, notamment de l'Union européenne. Et il y a un problème de transmission de savoir-faire. Et l'apiculture artisanale a plus de mal à transmettre ce savoir-faire, qui est plus délicat. Il faut vraiment comprendre qu'on travaille en grande majorité avec des personnes qui sont en mode survie. Tout ce qu'ils pensent, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir ou demain. Si je peux couper des arbres pour vivre mieux, ben, je le fais. Si on me propose de me lancer dans un autre type d'agriculture ou d'être pisciculture ou j'en sais rien, ben je le ferai. Mais il faut que les projets soient durables. C'est ça qui est le plus important pour eux, pour le pays, pour Madagascar et pour l'Afrique. Que la valeur créée reste en Afrique. C'est super important pour nous, en tout cas.
C'est-à-dire qu'il y a une valeur écologique à ce miel, il y a une valeur sociale.
Et voilà, et puis une valeur financière, une valeur économique. Mais trop souvent, ce qu'on voit, ce sont des entrepreneurs... occidentaux, par exemple, étrangers, qui achètent en vrac, qui repackagent sous leur marque, sous leur packaging, qui vendent ça. Et après, s'ils veulent changer de fournisseur, ils ont qu'à aller voir un autre fournisseur. Et du coup, toute une filière peut s'écrouler.
Toute une région peut se retrouver pénalisée.
Exactement. Et ça, c'est dangereux. C'est un de nos engagements aussi, c'est de monter des partenariats avec des partenaires tels que des chefs ou des épiceries qui puissent nous accompagner aussi et renforcer cette image de marque pour protéger aussi les apiculteurs.
Bon, pour expliquer à nos auditeurs africains ce que vous appelez les chefs, c'est les grands cuisiniers des grands restaurants.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Parce qu'en Afrique, si vous dites le chef, il va comprendre le chef du village.
Oui, pardon.
Si j'ai bien compris, nous, on a eu la chance de vous avoir juste au début, quoi.
Alors, ça fait 4 ans, ça fait, disons, 3 ans qu'on investit vraiment dans la production, et ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'on commence vraiment à vendre. Donc, effectivement, on est aux prémices, même si on a quand même, là, on a 50aine d'apiculteurs qui sont actifs, plus 50aine en formation. Et donc, mais oui, en quelque sorte, bien sûr, ça reste que le début, et on est encore une jeune entreprise, hein, on en a conscience, mais on souhaite... En tout cas, donner un certain niveau d'exigence dans ce qu'on fait. Et puis, pourquoi pas inspirer d'autres entreprises à faire la même chose, que ce soit dans le miel ou dans d'autres produits. Ah, il y a des produits extraordinaires en Afrique et qui méritent d'être valorisés et qui ne le sont pas assez.
On vous dit bon courage et bonne chance.
Merci, c'est gentil.
Merci.
Misoch, comment dire malgache?
Ah, c'est comme ça qu'on dit à Madagascar.
Oui, Misoch.
Misoch, d'accord. Est-ce que je le dis bien?
Oui, c'est pas mal.
Une mixture.
C'est pas top, quoi.
D'accord. Ok, merci. Nous avons tenu à savoir comment les choses se passent sur le terrain dans les villages à Madagascar. Et on nous a désigné monsieur le responsable technique de la compagnie du miel.
Allô?
Oui, bonjour, RFI.
10 secondes, on doit garer.
Ah oui, parce que si vous êtes au volant, ça ne va pas être possible.
Voilà, c'est bon.
Est-ce que vous avez beau temps là-bas?
Oui, on a très beau temps.
Parce qu'en Afrique, quand on appelle beau temps, c'est quand il a plu, alors qu'en Europe, quand on dit beau temps, c'est quand il y a du soleil.
Il faut un bon soleil, là. Il y a quelques nuages, mais il fait beau. Vous vous appelez comment?
Moi, c'est Sayouba Traoré, c'est l'émission Le Coq Chante.
Bon, je m'appelle Christian Rambienafsou.
Oui.
Je suis le responsable technique à la compagnie du miel.
Oui.
À Madagascar.
D'accord. Quel est le travail d'un responsable technique?
Le responsable technique, c'est de rester en contact en permanence avec ces producteurs-là pour les conseiller, pour les encadrer un peu dans la conduite de leur élevage. S'ils ont des problèmes, ils nous appellent et on discute ensemble. Et de temps en temps, nous descendons sur le terrain pour voir les ruches avec eux et les conseiller, quoi.
Ça veut dire que vous-même, vous êtes apiculteur?
Je suis apiculteur depuis 20 ans.
Vous avez parlé d'environnement, ben je vais vous dire, j'ai été à Madagascar, en termes de biodiversité, vous êtes gâté là.
On était gâté. Là, on est très inquiet parce que il y a beaucoup de dégradation. Parfois, à la place de cette biodiversité, on met en place des reboisements d'espèces uniques qui vont faire disparaître tout ça, quoi. L'ADN de Madagascar, comme on dit, cette biodiversité est en train de disparaître à une très grande vitesse.
Dans la nature, chaque espèce vivante et chaque essence végétale a sa place et son rôle, donc ses inconvénients et ses avantages dans le fonctionnement de la biodiversité. C'est pourquoi tout couper et privilégier une seule essence végétale est une hérésie. Et les conséquences à court ou moyen terme sont désastreuses.
On privilégie les espèces comme l'eucalyptus ou les acacias qui sont en train de coloniser ces espaces de biodiversité.
Si j'ai bien compris votre idée, vous avez constaté qu'il y a cette biodiversité qui était en train de se dégrader du fait de l'homme, et vous avez constaté qu'il y a des gens qui font de l'apiculture traditionnelle, et l'idée c'est de dire on va améliorer leur production et en même temps réhabiliter la biodiversité. Et comme ça, ils ne vont pas aller faire de la culture sur brûlis ou couper la forêt pour vendre du bois.
Oui, les apiculteurs sont automatiquement des défenseurs de l'environnement parce qu'ils constatent que les produits de la ruche leur donnent des revenus supplémentaires. Et ils deviennent les leaders de la protection de l'environnement. Mais ce qu'on constate, par exemple, sur certaines zones, c'est que le charbonnage pèse plus lourd que les produits de la ruche. Dans les zones, alors les gens préfèrent couper le bois pour du charbon qu'élever des abeilles.
Alors, vous arrivez dans un village avec votre équipe. Comment vous expliquez ça, tous ces enjeux-là aux villageois?
Pour la plupart, ils en sont conscients. Hein.
Ah oui, donc ils ont conscience que l'environnement se dégrade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais la pauvreté les oblige à continuer cette dégradation.
Voilà, voilà. Le miel est une alternative, mais produire du miel, ça ne se fait pas aussi en claquement de doigts. Hein. C'est tout un processus qui est élaboré, qui est assez long. C'est des mois de conduite de ruche et d'élevage avant de produire la première récolte. Donc le charbon, il suffit qu'il coupe et dans 10 jours, ils ont déjà de l'argent.
Ah, ça veut dire ce que vous appelez conduite de ruche, c'est-à-dire si j'achète une ruche, il faut que je veille à la bonne santé du cheptel des abeilles.
Voilà. Il faut avoir les bonnes fleurs qui fleurissent aussi, autour,
ah oui,
pour qu'elles puissent ramasser le nectar pour en faire du miel.
Et si j'achète une ruche, il me faut combien de temps pour pouvoir récolter du miel?
Ça dépend de l'environnement toujours, ça dépend des fleurs, ça dépend de ce qu'il y a autour. ça peut donner en 2 mois comme ça peut ne jamais donner. Hein. Si c'est pauvre, ça ne donne pas. Il y a des zones où nous installons des ruches et on n'arrive pas à récolter. Au désespoir des paysans.
Et là, c'est un problème.
Là, c'est un problème parce qu'ils redeviennent charbonniers et tout ça et ils dénigrent le processus après.
Donc, vous
mettez. Il y a quand même, on a des succès où ça produit bien. Les gens s'achètent des beaux vêtements, des motos, scolarisent leurs enfants et tout ça.
Mais vous, ça vous oblige à faire des kilomètres et des kilomètres.
Oui, moi je fais des milliers de kilomètres par an.
Hein. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en voiture?
Voilà. Non, là je suis en ville, je suis étonnant. Je suis dans la capitale. Je suis arrivé samedi.
Oui.
Je suis arrivé samedi, c'est pour ça que vous n'avez pas pu me joindre avec Thibault là.
Oui.
Au moment où Thibault, voilà.
Si j'ai bien compris, à l'heure où nous parlons, vous êtes en ville, mais vous êtes pressé de retourner au village.
Bah oui, c'est mon travail. Hein. C'est pour ça que je suis là. Dans les forêts, dans les brousses.
Oui.
En voiture, en pirogue, en moto.
Moi, je viens vous voir et je dis, voilà, je veux adhérer à ce que vous faites.
Oui.
Comment ça se passe?
La compagnie du miel cherche toujours des partenaires de bonne volonté. Hein. Si vous avez des régions d'affinité ou des communautés qui vous sont familières, on étudie si on peut faire du miel là-bas.
Ah oui, parce qu'il faut de l'eau aux abeilles, de la végétation.
Oui, des fleurs pour stocker, pour produire.
D'accord, on a vu cet examen et ensuite?
Et ensuite, comment vous voulez travailler avec les communautés? Quel paysan, quel type de... Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des apicueilleurs? Est-ce que c'est des charbonniers, etc. que vous voulez convertir à autre chose? Nous avons des individus qui travaillent avec nous dans les régions. Nous avons des communautés aussi.
Venir expliquer les choses, ça suffit pas. Il faut le démontrer par la pratique pour que les paysans voient.
Exactement.
Et une fois que vous aurez vulgarisé ça, vous avez dans un coin de la tête l'espoir secret que ça va se répandre.
Oui, et on espère que une fois la première année passée, on aura démontré la productivité avec un petit nombre de personnes.
Oui.
Ça va faire tache d'huile dans la communauté et que de moins en moins de gens vont couper le bois et faire des brûlis et de plus en plus de gens vont faire de l'apiculture. Thibault a calculé qu'il faut une vingtaine de ruches pour une famille malgache de la Brousse pour avoir un niveau de vie moyen.
On vous dit bonne chance?
Merci.
Et surtout beaucoup de courage.
Ah oui, c'est une guerre qui est de tous les jours. Hein. Évidemment qu'il y a des échecs, mais il y a beaucoup de succès qui nous poussent toujours à travailler plus fort avec ces personnes-là.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ok, bonne journée.
Merci. Hein.
Nous étions en compagnie des responsables et des techniciens de la Compagnie du Miel, une jeune société qui lutte pour un double objectif à Madagascar. D'abord, restaurer la biodiversité et ensuite valoriser le potentiel de l'apiculture dans les communautés villageoises. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire lecoqchante@rfi.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Appelez-nous, exprimez-vous.